4. À l'âge de 18 ans, Théodore Brautigan est reçu à Harvard, où son oncle Tim est également allé, et l'oncle Tim, lui-même sans enfant, est plus que disposé à payer la scolarité de Ted. Et pour autant que le sache Timothy Atwood, tout se passe de manière très claire. Il fait une offre. L'offre est acceptée, le neveu brille dans tous les domaines. Le neveu passe son diplôme et se prépare à entrer dans l'affaire de vente de meubles de son oncle, après 6 mois passés à visiter l'Europe de l'après-Première Guerre mondiale. Ce que l'oncle Tim ne sait pas, c'est qu'avant d'intégrer Harvard, Ted essaie de s'engager dans ce qui sera bientôt connu sous le nom de « Force expéditionnaire américaine ». « Mon garçon, lui dit le médecin, c'est un sacré souffle au cœur que tu as là, et ton ouïe n'est pas suffisante. Et maintenant tu vas me dire que tu es venu jusqu'ici sans te douter que ces détails te disqualifieraient d'office. Parce que, pardonne-moi si je suis à côté, mais tu m'as l'air plus intelligent que ça. » Alors Ted Brautigan fait quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant, qu'il s'est juré de ne jamais faire. Il demande au médecin de l'armée de choisir un chiffre, non pas entre 1 et 10, mais entre 1 et 1000. Pour lui faire plaisir, il pleut à Hartford, ce qui veut dire que tout est ralenti au bureau de recrutement. Le médecin pense au chiffre 748. Ted le devine. Puis il devine 419, 89 et 997. Quand Ted l'invite à penser à un personnage célèbre, vivant ou mort, et quand Ted lui dit Andrew Johnson, pas Jackson, mais Johnson, le médecin finit par être abasourdi. Il appelle un autre médecin, un ami à lui, et Ted lui refait le même numéro, à une différence près. Il demande au médecin de choisir un chiffre entre 1 et 1 million. Puis il annonce au type qu'il pense à 87 416. Le deuxième médecin a un moment de surprise, d'ébahissement pour tout dire. Puis il retourne sa veste et y va d'un grand sourire goguenard. « Désolé, fiston, tu ne t'es trompé que d'environ 130 000. » Ted le regarde sans sourire, sans réagir le moins du monde au sourire goguenard. Mais il n'a que 18 ans. Il est encore assez jeune pour être sidéré par une propension au mensonge aussi évidente qu'inutile. Entre-temps, le sourire goguenard de docteur numéro 2 commence à pâlir de lui-même. Docteur numéro 2 se tourne vers docteur numéro 1 et dit « Regarde-moi ses yeux, Sam. Regarde ce qui est en train d'arriver à ses yeux. » Le premier médecin essaie de diriger la lumière d'un ophtalmoscope dans l'œil de Ted, et Ted le repousse d'un geste impatient. Il a accès au miroir, et il a déjà remarqué que ses pupilles ont parfois tendance à se dilater et à se contracter. Il a conscience du moment où ça se produit, même s'il n'a pas de miroir sous la main. Il ressent comme un bégaiement dans l'œil, et ça ne l'intéresse pas, surtout pas maintenant. Ce qui l'intéresse en ce moment, c'est que le docteur numéro 2 se fout de sa gueule et qu'il ne sait pas pourquoi. « Écrivez le chiffre cette fois-ci, » propose-t-il. « Écrivez-le pour ne pas pouvoir tricher. » Docteur numéro 2 fanfaronne. Ted réitère le défi. Docteur Sam sort un morceau de papier et un stylo, et le deuxième médecin les prend. Il est sur le point d'écrire un chiffre quand il se ravise soudain, lance le stylo sur le bureau de Sam et dit « C'est une arnaque de rue, tout ce qu'il y a de plus banal, Sam. Si tu ne vois pas ça, c'est que tu es aveugle. » Et il sort d'un pas pesant. Ted invite le docteur Sam à penser à un membre de sa famille, n'importe lequel. Et bientôt, Ted dit à Sam qu'il pense à son frère Guy, mort de l'appendicite à l'âge de 14 ans. Et que depuis lors, la mère de Sam dit que Guy est son ange gardien. Cette fois-ci, on dirait que Dr. Sam vient de prendre une gifle. Et pour finir, il a peur. que ce soit à cause du va-et-vient dans les pupilles de Ted ou bien de sa démonstration de télépathie au pied levé. Sans frottement de front spectaculaire ni autre artifice, pas de « je vois une image, attendez, ça vient ». Toujours est-il que le docteur Sam a peur. Il met le tampon rejeté sur le bulletin de Ted, un gros tampon rouge, et il essaie de se débarrasser de lui. Suivant, qui veut aller en France renifler un bon coup de gaz moutarde? Mais Ted lui saisit le bras, avec douceur mais fermeté. « Écoutez-moi, dit Ted Brottigan, je suis un authentique télépathe. Je le soupçonne depuis que j'ai 6 ou 7 ans, depuis que j'ai l'âge de connaître le mot lui-même. Et je le sais avec certitude depuis mes 16 ans. Je pourrais être très utile au renseignement de l'armée, et ma mauvaise ouïe et mon souffle au cœur n'auraient aucune incidence pour un poste de ce genre. Et pour ce truc avec mes yeux ?» Il sort une paire de lunettes de soleil de sa poche de chemise et les met sur son nez. « Tadam !» Il adresse au docteur Sam un sourire plein d'espoir. Sans succès. Un huissier d'armes se tient à la porte du bureau temporaire de recrutement du service des sports du lycée d'East Hartford et le médecin l'appelle. « Ce jeune homme est exempté et j'en ai assez de discuter avec lui. Vous seriez bien aimable de l'escorter hors de nos locaux. » À présent, c'est le bras de Ted qu'on agrippe, et pas avec douceur. « Attendez une minute !» proteste Ted. « Il n'y a pas que ça, j'ai quelque chose d'encore plus précieux. Je ne sais pas s'il y a un mot pour ça, mais... » Mais il ne peut pas finir, car l'huissier d'armes le traîne dehors et le pousse vivement le long du couloir, sous l'œil de garçons et de filles bouche bée et qui ont exactement son âge. Il existe bel et bien un mot, et ce n'est que des années plus tard qu'il l'apprendra. Au paradis bleu. Ce mot, c'est facilitateur. Et pour Pomme Pimley Prentice, c'est ce qui fait de Ted Stevens Brottigan l'homme le plus précieux de l'univers. Pas en ce jour de 1916, cependant. En ce jour de 1916, on le traîne sans ménagement le long du couloir et on l'abandonne sur les marches en granit devant la porte principale. Et un homme, avec un accent du sud à couper au couteau, lui dit « T'as pas intérêt à te pointer, gars. » Après réflexion, Ted décide que l'huissier d'armes ne lui donne pas le signal du départ. Go. Mais que dans ce contexte, c'est sa prononciation de « gars ». Pendant un petit moment, Ted reste là où on l'a laissé. Il se demande « qu'est-ce qu'il faut pour vous convaincre ?» ou encore « comment peut-on être aussi aveugle ?» Il n'arrive pas à croire à ce qui vient de lui arriver. Pourtant, il faut bien qu'il le croie parce qu'il est bien là, dehors. Et au bout de 10 kilomètres de marche dans les environs d'Hartford, il croit comprendre autre chose aussi. On ne le croira jamais. Aucun d'eux ne le croira jamais. Ils refuseront de voir qu'un type qui peut lire dans l'inconscient collectif du haut commandement allemand pourrait avoir sa petite utilité. Un type qui pourrait raconter au haut commandement allié où les Allemands vont frapper un grand coup. Un type qui peut faire un truc comme ça 4 ou 5 fois, même rien qu'une ou deux, pourrait bien être en mesure de mettre fin à la guerre avant Noël. Mais il n'en aura pas la chance, parce qu'ils ne vont pas la lui donner, sa chance. Et pourquoi ça ? Ça a un rapport avec le fait que le deuxième médecin ait changé son chiffre quand Ted l'a trouvé pour refuser ensuite d'en écrire un autre. Parce que tout au fond d'eux-mêmes, quelque part, ils veulent se battre et qu'un type comme lui ficherait tout en l'air. C'est un truc dans ce goût-là. Qu'ils aillent se faire foutre dans ce cas, il ira à Harvard aux frais de son oncle. Et c'est ce qu'il fait. Harvard est exactement ce qu'a décrit Dinky, et plus encore. Le club théâtre, les débats d'idées, la revue écarlate, la confrérie des mathématiciens fous, et bien sûr, la cerise sur le gâteau. Les petits merdeux de Phi Beta. Il fait même économiser quelques dollars à Tonton en décrochant son diplôme en avance. Il est dans le sud de la France. La guerre est terminée depuis longtemps quand il reçoit un télégramme. Oncle décédé, stop. Rentre vite, stop. Le mot-clé semblait être « stop ». Dieu sait que ce fut un des grands tournants. Il rentra chez lui, oui, et il donna du réconfort là où on avait besoin de réconfort, oui. Mais au lieu d'entrer dans le commerce des meubles, Ted décide de dire « stop » à son ascension vers la réussite matérielle et de dire « go » à sa descente vers l'obscurité financière. Au cours de la longue histoire de cet homme, le cathète de Roland n'entend pas une seule fois Ted Brautigan regretter son anonymat volontaire et le passage sous silence de son talent caché. Voici un talent précieux mais dont personne au monde ne veut. Et bon Dieu, il finit par le comprendre. Tout d'abord son talent surnaturel, comme l'appellent parfois ces magazines de science-fiction au rabais, est un vrai danger, physiquement parlant dans certaines circonstances. Les mauvaises circonstances. En 1935, dans l'Ohio, il fait de Ted Brautigan un meurtrier. Il ne doute pas que d'aucuns trouveraient ce terme exagéré, mais il tient à en juger par lui-même dans ce cas précis. Merci beaucoup. Vraiment. Et lui, il dit que c'est exactement le mot qui convient. Il est à Akron, et c'est le crépuscule d'été dans les tons bleus, et les gosses jouent au foot avec une boîte de conserve au bout de Stossy Avenue, et au baseball à l'autre bout. Et Brautigan se tient au coin de la rue dans un costume léger. Il se tient contre un poteau peint d'une rayure blanche, la rayure blanche qui signale un arrêt de bus. Derrière lui, il a une confiserie déserte avec un aigle de l'armée peint sur une des fenêtres et un message à la craie sur un autre qui dit « Ils sont en train de tuer le petit homme ». Ted se tient là avec sa mallette éraflée et un sac en papier kraft. Une côtelette de porc, son dîner, il l'a acheté à la boucherie Fantaisie de M. Dale. Quand tout à coup on lui rentre dedans par derrière et il se cogne au poteau téléphonique avec sa rayure blanche. C'est le nez qui prend. Il se casse le nez, le sang gicle. Puis c'est la bouche qui cogne et il sent ses dents trancher l'ourlet moelleux de ses lèvres et tout à coup sa bouche se remplit d'un goût salé comme du jus de tomate chaud. Il sent un choc mat dans le bas du dos et un bruit de déchirement. Dans la violence du choc, son pantalon lui descend au milieu des fesses. Il tire-bouchonne comme un pantalon de clown. Et tout à coup, un type en t-shirt et pantalon de gabardine brillant sur le derrière descend Stossy Avenue en courant en direction du jeu de baseball, avec ce truc qui claque dans sa main droite, qui claque comme une langue de cuir marron. Et bon sang, ce truc, c'est le portefeuille de Ted Brautigan. Il vient de se faire dépouiller de son portefeuille, bon Dieu. Le crépuscule violet de cette nuit d'été s'obscurcit soudain, et c'est la nuit noire. Puis le ciel s'éclaircit de nouveau, puis redevient sombre. Ce sont ses yeux. Il refond ce tour étrange qui a tellement sidéré le deuxième médecin presque 20 ans auparavant. Mais Ted s'en rend à peine compte. Son attention est fixée sur l'homme en fuite, ce salopard qui vient de lui piquer son portefeuille, sans oublier de lui ruiner le portrait au passage. Jamais de toute sa vie il ne s'est senti dans une telle colère, jamais. Et bien que la pensée qu'il envoie à cet homme soit inoffensive, presque gentille, « Dis-moi, mon pote, je t'aurais volontiers donné 1 dollar si tu l'avais demandé, peut-être même 2 ». Elle a le poids fatal d'un javelot lancé à pleine vitesse. Et c'est vraiment un javelot. Il faut à Ted un certain temps pour l'admettre pleinement, mais le moment venu, il comprend qu'il est un assassin et qu'il y a un dieu. Ted Brautigan devra un jour se tenir devant son trône et répondre de ce qu'il vient de faire. L'homme en fuite a l'air de trébucher sur quelque chose. Pourtant, il n'y a rien. Rien que Harry aime Belinda, griffonnée à la craie sur le trottoir crevassé. Cette déclaration est entourée de griffonnages enfantins, des étoiles, une comète, un croissant de lune, qu'il en viendra plus tard à craindre. Ted a lui-même l'impression qu'il vient de prendre une lance dans le milieu du dos, mais lui au moins est toujours debout. Et ce n'est pas ce qu'il voulait, il faut le dire. Il sait au fond de lui qu'il ne l'a pas fait exprès, c'est juste que sa surprise s'est transformée en colère. Il ramasse son portefeuille et voit les gamins jouant au baseball qui le regardent bouche bée. Il brandit son portefeuille dans leur direction comme un pistolet avec un canon mou. Et le garçon, avec son manche à balai scié dans les mains, a un mouvement de recul. C'est ce mouvement, bien plus que le corps en train de s'affaler, qui hantera les rêves de Ted pendant l'année qui suivra, puis à intervalles réguliers jusqu'à la fin de ses jours. Parce qu'il aime les gosses, il ne leur ferait jamais peur pour s'amuser. Et il sait ce que eux voient. Un type avec son pantalon presque au genou, au point qu'on voit son caleçon dessous. Et il pourrait avoir le machin en train de voler au vent, ça ferait même une petite touche finale magique. Un portefeuille à la main et un air de cinglé sur sa foutue gueule.
« Vous n'avez rien vu !» leur crie-t-il. « Vous m'entendez maintenant ? Vous m'entendez ? Vous n'avez rien vu !»
Puis il remonte sans pantalon. Puis il retourne là où il a laissé sa mallette. Il la ramasse, mais pas la côtelette de porc dans son sac en papier Kraft. Au diable, la côtelette de porc, il a perdu l'appétit en même temps que ses incisives. Puis il jette un dernier regard au corps sur le trottoir et au gamin apeuré. Et il s'enfuit. Et ça devient sa routine. 5. La deuxième cassette arriva à sa fin, libérant la bande qui se mit à tourner avec son « fouip, fouip, fouip » paresseux.
« Tout Jésus !» fit Susanna. « Tout Jésus, pauvre homme !»
« C'était il y a si longtemps !»
ajouta Jake en secouant la tête comme pour la vider. Pour lui, les années entre son camp et celui de M. Brottigan représentaient un gouffre sans fond. Eddie se saisit de la troisième cassette et la plaça dans l'appareil, en haussant les sourcils à l'intention de Roland. Le pistolero fit un moulinet avec un doigt, son vieux geste familier qui signifiait « On y va, on y va ». Eddie glissa le bout de la bande dans la tête de lecture. Il n'avait jamais fait ça auparavant, mais pas besoin d'être ingénieur en astrophysique, comme disait le proverbe. La voix lasse reprit le fil de son récit, parlant de la maison en pain d'épices que Dinky Earnshaw avait faite pour chimie, ce lieu tout rouge créé à partir de rien, si ce n'est l'imagination. Une galerie sur le flanc de la tour, comme l'avait appelé Brottigan. Il avait tué 7 hommes autour de 7 heures du soir. Par accident, personne n'aurait dit le contraire. Ils vivaient au rythme de leurs armes et savaient faire la différence entre « par accident » et « volontairement », sans avoir à débattre. À 9 heures ce même jour, Ted Brottigan était dans un train vers l'ouest. 3 jours plus tard, il épluchait les petites annonces d'emploi dans le journal de Des Moines à la recherche d'un poste de comptable. Il avait d'ores et déjà appris quelque chose sur lui-même. Il savait combien il lui faudrait être prudent. Il ne pouvait plus se permettre le luxe de la colère, même lorsqu'elle était justifiée. En temps normal, il n'était qu'un télépathe standard, capable d'épater un peu la galerie. Il pouvait vous dire ce que vous aviez mangé et où se trouvait la dame de cœur avant même que le petit filou au coin de la rue avec son arnaque ne le sache lui-même. Mais en colère, il avait accès à cette lance redoutable.
« Et juste au passage, ce n'est pas tout à fait vrai !» dit la voix dans le magnétophone. « Quand je dis que je n'étais qu'un télépathe standard, je veux dire, j'en avais conscience depuis mon plus jeune âge, quand je n'étais encore qu'un gamin qui essaie de se faire enrôler dans l'armée. Mais je ne connaissais pas le terme exact. »
Ce mot, c'était « facilitateur », comme il devait le découvrir. Et il serait bientôt persuadé que certaines personnes, certains chasseurs de talent, l'observaient dès ce moment-là, le jaugeaient, avaient conscience qu'il était différent des autres télépathes, mais sans savoir en quoi consistait cette différence. Pour commencer, les télépathes, qui n'étaient pas originaires de la Terre-Clé, c'était leur expression, étaient rares. Ensuite, dès le milieu des années 30, Ted s'était rendu compte que ce qu'il avait était contagieux. Quand il se trouvait en présence d'une personne dans un état de grande émotion, que pendant un court laps de temps, cette personne devenait elle aussi télépathe. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ceux qui étaient déjà télépathes devenaient plus puissants, de manière exponentielle.
« Mais je mets la charrue avant les bœufs », se corrigea-t-il.
Il avait erré de ville en ville, vagabond en costume dans la voiture voyageur plutôt qu'en salopette dans le wagon de marchandises, ne restant jamais assez longtemps où que ce fût pour y poser ses valises. Et rétrospectivement, il se disait que même à l'époque, il savait qu'il était observé. C'était une intuition. Comme ces bizarreries qu'on perçoit parfois du coin de l'œil, il devient conscient de certains types de gens, par exemple. Certains étaient des femmes, d'autres des hommes. Ils avaient tous un goût appuyé pour les vêtements voyants, le steak saignant et les voitures de couleur aussi criardes que celles de leurs costumes. Ils avaient les traits étrangement épais et bizarrement inexpressifs. Un air que, bien plus tard, il associerait aux idiots qui s'étaient fait refaire le visage par des chirurgiens esthétiques charlatans. Au cours de cette période d'une vingtaine d'années, mais encore une fois sans en être conscient, juste du coin de l'œil, il prit conscience du fait que, peu importe la ville dans laquelle il se trouvait, ces mêmes symboles enfantins avaient une fâcheuse tendance à apparaître sur les clôtures, les vérandas et les trottoirs. Des étoiles et des comètes, des planètes à anneaux et des croissants de lune. Parfois, un œil rouge. Il lui arrivait aussi de voir un jeu de marelles dans les parages, mais pas toujours. Plus tard, dit-il, tout s'était agencé de manière un peu folle, mais pas dans les années 30. 40, ni même au début des années 50, quand il errait. Non, à cette époque, il était encore un peu comme Docteur 1 et Docteur 2. Il ne voulait pas voir ce qu'il avait pourtant sous le nez, parce que c'était dérangeant. Et c'est alors, à peu près au moment où la guerre de Corée tirait à sa fin, qu'il avait vu l'annonce. Elle promettait le travail de toute une vie et ajoutait que si on avait les compétences requises, il ne serait posé absolument aucune question. Venait ensuite une énumération des qualités nécessaires et une formation de comptable en faisait partie. Brottigan était certain que cette annonce était parue dans les journaux de tout le pays. Lui la trouva dans l'Abeille de Sacramento.
« Bon sang de merde !» s'exclama Jake. C'est dans ce même journal que le père Callahan a appris que son ami George Magruder...
« Chut !» ordonna Roland. « Écoute !» Ils écoutèrent. 6. Les tests sont menés par des humes, terme que Brottigan n'apprendra que dans quelques semaines, pas avant d'avoir quitté l'année 1955 et d'être entré dans le non-temps de l'algule. Le recruteur qu'il finit par rencontrer à San Francisco est un hume, lui aussi. Ted apprendra, entre autres nombreuses choses, que ces déguisements que portent les ignobles, surtout ces masques, ne sont pas bien faits, surtout quand on se trouve près d'eux. Quand on est proche d'eux, on voit la vérité toute nue. Ce sont des hybrides hume-taïne qui prennent très à cœur cette question de leur devenance avec une ferveur religieuse. Le meilleur moyen de se retrouver dans les bras d'un ignoble avec un jeu de dents meurtrières d'ignoble en train de vous chercher la carotide, c'est de déclarer que tout ce qu'ils font, c'est devenir plus vieux et plus laid. cette marque rouge sur leur front, l'œil du roi, disparaît généralement quand ils se trouvent du côté Amérique, où elle s'assèche comme un furoncle qui sommeille, et leurs masques prennent un aspect organique à vous donner la chair de poule, sauf derrière les oreilles, où la chair poilue est hérissée de dents à fleurs et à l'intérieur des narines où on aperçoit des dizaines de petits cils mouvants. Mais qui est assez impoli pour aller regarder dans les narines de son voisin, sincèrement? Quoi qu'il pense, quand on se trouve tout proche, il y a vraiment un truc qui cloche chez eux, côté Amérique. Et on ne voudrait pas faire peur aux poissons avant d'avoir correctement installé le filet. Alors, on a mis des HUM, abréviation que les Cantois n'osent même pas utiliser. Ils la trouvent dégradante, comme vamp ou nègre, qui procède aux examens, qui se charge des entretiens, que des HUM dans les premiers temps. Quand on passe le premier barrage de l'entretien professionnel côté Amérique pour se retrouver à tonne foudre. Ted passe les tests. En même temps qu'une centaine d'autres types environ, dans un gymnase qui lui rappelle celui d'East Hartford. On a rempli celui-là de rangées et de rangées de bureaux, comme dans une salle d'études. On a soigneusement disposé les tapis d'athlétisme en dessous pour éviter que les pieds métalliques des vieux bureaux n'entament le parquet ciré. Mais au bout de la première batterie de tests, un diagnostic de 90 minutes en maths, anglais et questions de vocabulaire, la moitié des bureaux s'est vidée. Au bout de la deuxième manche, la salle s'est vidée aux trois quarts. La deuxième manche est composée de questions plutôt bizarres, des questions extrêmement subjectives. Et dans plusieurs cas, Ted donne une réponse à laquelle il ne croit pas, parce qu'il pense, peut-être le sait-il, que ceux qui ont organisé ces tests attendent une réponse différente de celle que lui, et la plupart des gens, auraient donnée en temps normal. Par exemple, voici une de ces petites perles. 23. Vous vous arrêtez à côté d'une voiture qui s'est retournée dans le fossé, au bord de la route. Piégé à l'intérieur se trouve un jeune homme qui appelle au secours. Vous criez « Vous êtes blessé, jeune homme ?» Et il vous répond « Je ne crois pas. » Dans le champ, près de la voiture, vous trouvez une sacoche remplie d'argent. Que faites-vous ? A. Vous sauvez le jeune homme et lui rendez son argent. B. Vous sauvez le jeune homme et insistez pour déposer l'argent au commissariat le plus proche. C. Vous prenez l'argent et reprenez votre chemin, sachant que bien que la route soit peu fréquentée, quelqu'un finira bien par venir à son secours. D. Aucune des réponses citées. S'il s'était agi d'un questionnaire pour la police de Sacramento, Ted aurait entouré le B sans l'ombre d'une hésitation. Il n'est peut-être rien de plus qu'un vagabond sillonnant le pays, mais sa mère n'a pas élevé des idiots, merci beaucoup. D'ailleurs, ce serait le bon choix dans presque toutes les circonstances. C'est la réponse sans risque, la réponse qui n'attire pas d'ennui. Et comme solution de repli, celle qui dit « Je ne sais foutrement pas ce que c'est que cette histoire, mais j'ai au moins l'honnêteté de le dire. » Il y a le D. C'est pourquoi Ted entoure le C. Mais pas nécessairement parce que c'est ce qu'il ferait dans pareille situation. Il a tendance à penser qu'il serait plutôt du genre A, se disant qu'il pourrait au moins poser au jeune homme quelques questions concernant son butin. Et si on n'en venait pas carrément à la torture pure et simple? Parce qu'il saurait le fin mot de l'histoire, n'est-ce pas? Peu importe que le jeune homme soit bavard ou pas sur le sujet. Eh bien super, voilà ton pognon, vaya con Dios. Et pourquoi? Parce qu'il se trouve que Ted Brottigan est convaincu que le propriétaire de la confiserie n'a pas tout faux. Ils sont en train de tuer le petit homme. Alors il entoure le C. Et 5 jours plus tard, il se retrouve dans le vestibule d'un studio de danse qui a fait faillite en plein San Francisco. On lui a payé son billet de train depuis Sacramento, en compagnie de 3 autres hommes et d'une adolescente à l'air maussade. Cette gamine était autrefois Tania Leeds de Bryce, dans le Colorado, apprendra-t-il plus tard. Plus de 400 personnes s'étaient pointées au gymnase pour les tests, attirées par le jackpot promis par l'annonce. Des andouilles de bouc émissaire pour la plupart. Et voici qu'ils ne sont plus que 4 moutons. 1%. Et même ça, comme le découvrira Brottigan avec le temps, c'est une pêche miraculeuse. On finit par le faire entrer dans un bureau portant l'écriteau privé. Il est rempli à craquer d'accessoires de danse poussiéreux. Un baraquet au trait dur, en costume marron, est assis sur une chaise pliante, entouré d'une collection incongrue de tutus roses et vaporeux. « Un vrai crapaud dans un jardin imaginaire », se dit Ted. Le type se penche en avant, appuyant les bras sur ses cuisses éléphantesques. « Monsieur Brottigan, » dit-il. « Que je sois ou non un crapaud, je peux vous offrir le boulot de votre vie. Je peux aussi vous renvoyer avec une poignée de main et un « merci beaucoup de vous être déplacé ». Tout dépendra de votre réponse à une question. Une question sur une question, en fait. » L'homme, dont le nom se révèle être Frank Armitage, tend à Ted une feuille de papier. Dessus est soulignée en gros la question 23, celle sur le jeune homme et la sacoche remplie d'argent. « Vous avez entouré la réponse C », résume Frank Armitage. « Alors maintenant, sans une seconde d'hésitation, je vous prie de me dire pourquoi. »« Parce que c'était la réponse C que vous vouliez, » répond Ted sans une seconde d'hésitation. « Et comment le savez-vous ? Parce que je suis télépathe. » répond Ted, et que c'est ça que vous cherchez en vérité. Il essaie de maintenir un visage impassible et croit y arriver plutôt pas mal, mais à l'intérieur il se sent gagné par un intense et joyeux soulagement. Parce qu'il a trouvé du boulot? Non, parce qu'ils sont sur le point de lui faire une offre qui ferait paraître mesquin le gros lot du loto? Non, parce que enfin, quelqu'un veut bien de son don, parce que enfin, quelqu'un veut bien de lui.